Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Quelques mots sur les écrivains francophones d'Égypte. Le français est implanté depuis plusieurs siècles en Méditerranée orientale, comme langue internationale, bien sûr. Il est encore langue du commerce, des écoles, des missions, de la protection des chrétiens de l'Empire ottoman depuis le XVIe siècle. Et des foyers de francophonie se sont développés au XIXe siècle, ou depuis le XIXe siècle, au Liban, en Égypte, mais aussi, ça on le sait moins, en Syrie, en Irak, en Turquie, jusqu'en Iran. L'expédition militaire de Napoléon Bonaparte en Égypte a paradoxalement favorisé l'établissement de relations étroites entre l'Égypte et la France. Les travaux de Champollion ont permis de traduire les textes des idéogrammes anciens, mais Métalli, souverain d'Égypte de 1804 à 1849, appela des techniciens français pour moderniser le pays et créer une industrie nationale. La construction du canal de Suez de 1859 à 1869 resserra ces liens. Beaucoup d'Européens s'installèrent alors en Égypte, notamment à Alexandrie, qui devint une grande ville cosmopolite. Ces échanges influencèrent le mouvement de renaissance, Nahda, de l'Orient arabe à la fin du XIXe siècle. Les établissements scolaires français, fondés dès 1844, accueillirent non seulement les enfants des expatriés, mais aussi ceux de la haute société égyptienne. Des journaux et des revues en français se développent à partir des années 1860 et manifestent la bonne tenue d'une vie intellectuelle égyptienne francophone. En 1887, Arthur Rimbaud leur adresse à ces journaux égyptiens des articles qui rendent compte de ses voyages au Harar. Le français devient pour les classes aisées égyptiennes la langue de l'ouverture à la modernité. Il le restera jusqu'au milieu du XXe siècle, quand sa situation a été ruinée par la crise de 1956, née de la nationalisation du canal de Suez. Robert Solé, journaliste brillant par ailleurs, né au Caire, dans une famille qui était installée depuis des décennies, voire des siècles, en Égypte, a bien rendu l'atmosphère de l'Égypte cosmopolite qu'il a connue dans son enfance et son adolescence. D'abord, dans des romans au style enlevé et élégant, Le Tarbouche est une grande saga familiale, sans doute nourrie d'exemples personnels, Le Sémaphore d'Alexandrie, puis La Mamelouka, évoquent avec brio l'Égypte de la fin du XIXe siècle, quand la rivalité franco-anglaise prépare la colonisation du pays. Robert Solé a publié aussi plusieurs études historiques remarquablement informées, dont L'Égypte passion française, et puis plus récemment Les savants de Bonaparte. Dès le XVIIe et le XVIIIe siècle, des voyageurs français, Chardin, Tavernier, Thévenot, s'étaient fait écrivains pour raconter leur périple en Orient. Au XIXe, ce sont les écrivains célèbres, Chateaubriand, Nerval, Théophile Gautier, Flaubert et quelques autres, qui partent pour l'Orient, et plus particulièrement pour l'Égypte, en quête d'images exotiques et de beaux mythes. La littérature francophone du Proche-Orient est souvent née du désir de préciser, nuancer ou corriger leurs visions et leurs rêves d'Orient. Malheureusement, les textes égyptiens francophones un peu anciens sont aujourd'hui assez mal accessibles. Ainsi, le livre de Goa le Simple d'Adès et Josipovici, publié en 1919 et qui a pourtant été longtemps en catalogue du livre de poche, s'inspire d'un folklore commun à tout le monde arabe pour conter les aventures d'un simple d'esprit très malicieux. La romancière Out El Kouloub, née dans une vieille famille de l'aristocratie musulmane et qui a accueilli André Gide lors de son voyage en Égypte, restitue dans ses contes et romans l'atmosphère de la vie égyptienne traditionnelle dans le monde musulman. Gallimard avait accueilli Harem en 1937 et La nuit de la destinée en 1954. En revanche, les trois grands écrivains sur lesquels je vais m'étendre un petit peu plus sont très facilement trouvables en librairie et en collection de poche. Il s'agit d'André Chédide, d'Albert Cosseri et d'Edmond Jabès. André Chédide appartient à l'une de ces vieilles familles libanaises installées dès longtemps en Égypte. Elle est née au Caire en 1920 et elle a passé son enfance en Égypte, mais elle a vécu aussi au Liban où elle a été journaliste. Installée à Paris depuis 1946, elle a construit une œuvre de longue haleine, poétique et romanesque, fortement imprégnée de la culture des deux pays de son enfance et de sa jeunesse. Dans ses romans, André Chédide veut restituer la complexité et l'humanité profonde des pays de son origine. Elle a rencontré un large public avec Le sixième jour, qui est le récit de la longue épreuve d'une grand-mère égyptienne qui veut sauver son petit-fils du choléra. La vieille Sadika n'a plus de toute sa parenté que ce petit-fils, Hassan, sur lequel elle a reporté tous ses espoirs. Mais l'épidémie de choléra qui ravage la ville du Caire atteint aussi l'enfant. La grand-mère espère que son amour réussira à l'arracher à la mort. Elle craint par-dessus tout que l'on emmène l'enfant à l'hôpital pour y mourir. À force de ténacité, elle réussira à le sauver. Je lis quelques lignes où l'on voit comment la grand-mère trouve dans les proverbes de sa culture, comme ce beau proverbe « l'ombre, c'est la maladie du soleil », il trouve donc la force et les raisons de s'opposer à la mort menaçante. Il n'y avait plus une minute à perdre. Bien qu'elle sentît le poids de l'enfant sur ses jambes, Sadika ne voyait pas Hassan. Avec précaution, elle le souleva, puis se courba en avant et le coucha par terre. En tâtonnant dans le noir, elle chercha une vieille boîte en fer déposée dans un angle de la chambre et qui contenait des bougies. Elle en prit une, l'alluma, la fixa sur le sol dans un peu de cire fondue. La pièce devint translucide. Elle crut voir partout des yeux qui l'épiaient. Le verrou, avec sa vis manquante, lui parut tout de travers, un simulacre. « Nous partons !» dit-elle penchée au-dessus de l'enfant. Les yeux de Hassan, démesurément agrandis, fixaient un point invisible. Soudain, secoué de spasmes, il se redressa et vomit par flots. La vieille lui cala le dos contre une chaise renversée, essuya sa bouche. « J'ai soif !» Sa langue pendait, sèche, rouge. « Attends, je reviens. » Elle emplit à moitié le gobelet en étain, le lui apporta. Il y trempa ses lèvres, avala une ou deux gorgées, qu'il rejeta aussitôt. « Pas d'hôpital » supplia-t-il. « Jamais !»« Nous allons partir, n'aie pas peur. Ni les hommes, ni la mort ne nous rattraperont. L'ombre ?» C'est la maladie du soleil. Et rappelle-toi, le soleil gagne toujours. Toi, tu es mon soleil. Tu es ma vie. Tu ne peux pas mourir. La vie ne peut pas mourir. André Chédide a continué son œuvre en conservant une très large audience avec des romans comme L'Autre, qui est l'évocation d'un tremblement de terre dans une ville égyptienne. Le sauvetage d'un enfant y est vécu comme une nouvelle naissance. Dans cette œuvre romanesque d'une très belle tenue, André Chédide continue à affirmer sa foi dans cette idée que l'homme est possible. Ses romans des dernières années, prennent souvent comme arrière-plan narratif les conflits sanglants qui ravagent le Proche-Orient. Dans L'enfant multiple, son personnage principal est un enfant de père égyptien, musulmane, de mère chrétienne, libanaise, tous deux morts au Liban en 1987, et cet enfant vient vivre en exil à Paris, où il trouve un réconfort dans l'amitié que lui porte le propriétaire d'un manège de chevaux de bois. Albert Kosri, autre grand écrivain égyptien francophone, est né au Caire en 1913. Dans sa famille, la mère ne parlait que l'arabe. Mais Albert Kosri a fait sa scolarité dans les établissements d'enseignement français de la capitale égyptienne, tenus par des religieux. Il publie au Caire des premiers poèmes en 1931, et puis il écrit d'abord en arabe, avant de venir au français. Ses nouvelles, « Les hommes oubliés de Dieu », sont remarquées par l'écrivain américain Henry Miller, qui leur donnera une belle préface dans la première édition de 1941. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Kosri est steward sur un paquebot de la marine marchande égyptienne. C'est sans doute le seul moment de sa vie où il exerce une profession. En 1945, il vient s'installer à Paris, où il vit dans la même chambre d'un petit hôtel de Saint-Germain-des-Prés, publiant de temps à autre un nouveau roman. Mais son inspiration est restée enracinée dans son Orient natal. Albert Kosri a poussé jusqu'à la perfection l'art de l'oisiveté, qui est pour lui non pas une triste paresse, mais un refus délibéré du monde comme il va, une véritable révolte métaphysique. Tous ses romans parlent de son Égypte natale, mettant en scène des personnages marginaux, des mendiants, des prostituées, des vagabonds, qui sont aussi des philosophes, opposant leur résistance passive et anarchiste au désordre du monde. Le titre de son roman de 1955, « Mendiant et orgueilleux », est parfaitement emblématique de son œuvre. Gohar, le héros, est un ancien professeur qui a décidé de se faire mendiant le jour où il a compris la vanité et la vacuité de son enseignement. Comment pouvait-on mentir au sujet de la géographie? Eh bien, ils étaient parvenus à dénaturer l'harmonie du globe terrestre en y traçant des frontières tellement fantastiques qu'elles changeaient d'une année à l'autre. Au début du roman, Gohar, je vais lire là quelques lignes encore, est difficilement réveillé par l'eau qui a envahi le sol de sa chambre. Il pense d'abord que ce sont les voisins qui ont lavé leur dallage. Dans cette maison délabrée et sordide du quartier indigène, habité par de pauvres êtres faméliques, on ne lavait jamais le dallage. Ces gens étaient sans doute des nouveaux locataires, des malins qui voulaient impressionner le quartier. Gohar demeurait l'esprit inerte, comme frappé de stupeur par la révélation de cette propreté insensée. Il lui semblait qu'il fallait faire quelque chose pour arrêter cette inondation. Mais quoi? Le mieux était d'attendre. Un miracle se produirait certainement. Cette inondation absurde réclamait un dénouement par des forces surnaturelles. Gohar se sentait d'avance désarmé. Il attendit quelques minutes, mais rien ne se produisit. Aucune puissance occulte ne vint le secourir. Il se leva enfin, resta debout, immobile, dans une attitude d'halluciné, de rescapé d'un naufrage, puis, avec d'infinies précautions, il avança sur le sol détrempé et alla s'asseoir sur l'unique chaise qui meublait la chambre. À part cette chaise, il n'y avait rien d'autre qu'une caisse en bois retournée sur laquelle trônait un réchaud à alcool, une cafetière et une gargoulette contenant de l'eau potable. Goar vivait dans la plus stricte économie de moyens matériels. Il détestait s'entourer d'objets. Les objets recelaient les germes latents de la misère, la pire de toutes, la misère inanimée, celle qui engendre fatalement la mélancolie par la présence sans issue. La plupart des meubles et des objets usuels outrageaient sa vue, car il ne pouvait offrir aucun aliment à son besoin de fantaisie humaine. Seuls les êtres, dans leur folie innombrable, avaient le don de le divertir. Comme on l'aura remarqué, le texte multiplie les indications pour souligner l'absence de réaction de Goar, l'esprit inerte, frappé de stupeur, attitude hallucinée. Seule une intervention surnaturelle pourrait apporter le salut, mais elle ne vient pas. Et Goar se décide enfin à faire quelque chose. Il va s'asseoir sur la seule chaise de sa chambre. La description précise de la plus stricte économie de moyens matériels dans laquelle vit Goar souligne sa misère en énumérant les rares objets de sa chambre. Mais il y aurait une misère pire que ce dénuement. Ce serait la misère inanimée que produirait la profusion des objets comme autant d'obstacles à la liberté par leur présence sans issue. Le dénuement de Goar est au contraire libérateur. En ne s'encombrant pas d'objets, Goar se donne une chance d'apprécier les êtres humains dans leur fantaisiste réalité. Dernier grand écrivain que nous évoquerons aujourd'hui, Edmond Jabès, né au Caire en 1912, dans une famille de religion juive, depuis très longtemps installée en Égypte. Edmond Jabès s'est d'abord situé dans la branche égyptienne du surréalisme, avec Joyce Mansour ou Georges Hénin et quelques autres. Écrit entre 1943 et 1957, ses poèmes de « Je bâtis ma demeure » jouent sur l'incongruité des images et l'absurdité de textes qui prennent souvent la forme de chansons. Il y retrouve l'esprit d'enfance de son ami et maître Max Jacob. Je lis un très court poème, une très courte chanson de ce recueil. C'est la chanson des trois petites vieilles assises. Trois petites vieilles veillent en rond dans leur salon. Elles ont froid à l'âme et quelquefois une larme les brûle jusqu'au menton. Elles ont aimé jadis un roi qui ne sut choisir entre elles trois. À la première, le roi a dit « Tu seras reine de mon pays ». À la seconde, le roi jura de n'aimer qu'elle toute la vie. À la troisième, le roi promit de mourir pour elle et se tua. Les petites vieilles ont leurs souvenirs qui les aident à porter leur croix. Elles se dévisagent et sourient, heureuses d'être réunies, sans se lasser, parlent d'avenir, assises toutes trois dans le temps, comme le roi les a placées. En 1957, Edmond Jabès est contraint à l'exil. Son origine juive l'empêche de rester dans son pays et il choisit de venir s'installer à Paris où il prend la nationalité française. Mais il est désormais convaincu que c'est à partir de son exil, de sa non-appartenance, comme il disait, qu'il lui faut écrire. Il est juif mais non pratiquant, et pourtant il ne cesse d'interroger la culture juive et la Bible sur la fonction de la parole et de l'écriture. Il rêve d'un livre qui rassemblerait toutes les formes sans appartenir à aucune d'elles. De 1963 jusqu'à sa mort, il réunit dans de grands ensembles le livre des questions, le livre des ressemblances, le livre des limites, des textes qui jouent tous sur leur disparate. Ce sont des poèmes, des récits, des aphorismes, des dialogues, des fragments de journal, des articles, etc., etc. De l'Égypte de ses jeunes années, Jabès avait gardé la fascination du désert, lieu d'exil par excellence, où s'inscrit pourtant la présence de l'homme. Le désert figure le silence qui se creuse quand on interroge toute parole. La tentative littéraire de Jabès est bien l'une des plus fascinantes qui soit. L'écrivain est en quête d'un livre absolu dans lequel se rassembleraient, se retrouveraient tous les livres. Rêve impossible, bien sûr. Du tout livre, on ne peut saisir que le bouillonnement d'une matière chaotique, une rumeur inintelligible, dit-il. C'est ce chaos qu'il veut présenter au lecteur en l'invitant à se placer, comme lui, au seuil du livre, là où des phrases, des citations surgissent, dont la réunion construira, peu à peu, le livre à venir. Nul souci d'une forme à préserver ou à polir dans un tel projet. Au contraire, il se peut que la banalité de l'expression soit nécessaire pour la faire échapper à un ancrage trop marqué dans une temporalité. La langue d'écriture de Jabès vise à être juste. Ne pas écrire juste, c'est mettre au jour une pensée morte, disait-il. Sa langue d'écriture se coule sans peine dans le modèle classique. Roger Caillois la définissait comme un quartz noir. Mais c'est aussi la langue d'un écrivain venu au français depuis l'une des marges de la francophonie. La langue, dans son nomadisme, est le seul lieu d'appartenance où il puisse se tenir. Peut-être y a-t-il, disait-il, chez tout minoritaire, un besoin de se réfugier dans une langue, de se faire en quelque sorte, par le biais de cette exigence, accepter d'autrui. Ce qui peut expliquer le goût de Jabès pour les mots rares et vieillis qu'il exhume des dictionnaires pour les ressusciter et abolir ainsi la mort des mots par la pratique de l'écriture. Le ressassement du questionnement devient la plus lancinante des quêtes métaphysiques. On lit ainsi « Être, c'est interroger. C'est s'interroger dans le dédale de la question posée à autrui et à Dieu » qui ne comporte aucune réponse. L'interrogation procède d'une angoisse qui ne saurait s'apaiser, sinon dans l'acceptation de l'impossibilité de la réponse. Jabès a toujours rapporté cette pratique du questionnement perpétuel à sa judéité. Judéité contradictoire, comme il l'a souvent souligné, puisqu'il est un familier de la Bible et du Talmud, mais il ne pratique pas. Et il n'a jamais souhaité se ressourcer dans l'État d'Israël. Jabès pousse ce questionnement à la limite en pratiquant une écriture qui s'affiche juive tout en mettant radicalement en doute l'existence, sinon l'idée, de Dieu, ce qui ne peut que le rendre étranger parmi les Juifs. Edmond Jabès, c'est bien l'irrémédiable étranger. Thank you.